Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour RTL midi, 1h30 pour comprendre l'actualité. Vous le savez, nous décryptons et vous, vous commentez vos appels au 3210 sur les sujets qui vous intéressent. Christelle, bonjour.
Bonjour à tous.
3210 et vos messages sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. C'est le grand carrefour de l'information de la mi-journée sur la première radio de France. C'est tout simple, c'est votre émission. Christelle, l'actualité, c'est le service national pour les jeunes.
Il sera universel. Est obligatoire. Cette fois, c'est officiel. Oui, mais comment l'organiser? Quelle durée? À quel moment? Quel encadrement? Où? Nous ferons le point dans un instant. Le convoyeur de fonds qui avait dû donner une bonne vingtaine de millions d'euros au ravisseur de sa fille est en garde à vue à Lyon. La victime est devenue principal suspect. Une enfant de 11 ans peut-elle avoir librement consenti une relation sexuelle avec un homme de 28 ans? Cette question est au centre d'un procès qui s'ouvre à Pontoise. Faut-il instaurer ou pas un âge de consentement sexuel? Débattons en 32-10. Dans RTL Midi aussi, l'ancien membre du FLNC, Charles Pierry, en garde à vue pour des propos injurieux contre la veuve du préfet Erignac. Quand les jeunes mettent le pouce en bas à Facebook, le réseau social vient encore de perdre 2 millions d'utilisateurs chez les moins de 25 ans. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Vous repassez une petite couche de neige.
Exactement, une petite couche de neige. Il neige en ce moment là du côté de Caen, Rouen, descendant vers Le Mans également. Ça arrive sur Orléans, à Poitiers, à Limoges. Une pellicule de neige effectivement qui va se déposer. On a déjà parfois entre 3 et 5 cm. Tout cela va traverser l'Île-de-France, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, la région centre en cours d'après-midi. Alors, ça ne tiendra pas systématiquement, hein, notamment en Île-de-France, mais on verra voltiger quelques flocons. Et puis en cours d'après-midi et soirée, tout ça se décalera vers l'est. Après son passage, donc après le passage de cette perturbation, on retrouvera quelques éclaircies près de l'Atlantique avec encore des averses, mais sous forme de pluie cette fois-ci, parce que les températures seront plutôt en hausse cet après-midi, même si elles resteront en dessous des moyennes de saison. 2 à 6 degrés en règle générale, jusqu'à 8, 9 degrés du côté de la Bretagne et de 9 à 11 degrés dans l'extrême sud.
Et la météo en version longue avec Louis, bien sûr, juste avant 13h. Après 13h, vos rendez-vous, une histoire dans un jour sur la Terre. À 13h50, la séquence Fou Rire avec Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne donc le service national universel. Faut-il le rendre obligatoire comme le souhaite le gouvernement? C'est du 60% de oui sur notre site, le non à 33%. Alors vos sentiments, dès maintenant, exprimez-vous au 3210. Un premier appel signé Mathieu depuis les Hauts-de-Seine.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Quitte à mettre en place un service national, je trouve qu'il serait utile de le rendre obligatoire, car ça ne pourrait aider pas mal cette jeunesse qui semble être parfois en perte de repères, et ça pourrait combler pas mal aussi les lacunes qu'il y a dans l'éducation, dans les cellules familiales. Donc moi, je serais pour le rendre obligatoire. Oui.
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et si la victime était en fait le cerveau de l'incroyable braquage d'un fourgon de transport de fonds en Suisse? Souvenez-vous, la semaine dernière, un convoyeur affirmait avoir dû donner le contenu de son fourgon à des hommes qui venaient d'enlever sa fille. La jeune femme avait ensuite été retrouvée en état de choc au bord d'une route. Eh bien, le père, l'un de ses collègues et sa fille sont en garde à vue à Lyon, Arnaud Grange.
Exactement, tous les trois sont en garde à vue depuis samedi matin ici dans les LOPJ lyonnaises. Leur garde à vue a été prolongée hier après-midi. Alors d'après nos informations, les enquêteurs ne remettent pas en cause leur version des faits. En revanche, ils sont intrigués par une forte somme d'argent, plusieurs centaines de milliers de francs suisses, retrouvés au domicile du collègue du père de la jeune fille. Alors est-ce une forme de rémunération ou est-ce un vol? À ce stade de l'enquête, l'hypothèse privilégiée que ce convoyeur de fonds aurait profité d'un sac d'argent oublié par les braqueurs dont le fourgon blindé au moment de leur fuite pour le dérober et le cacher à son domicile. Il aurait agi par opportunisme au moment des faits. Mais pour les enquêteurs, ces trois personnes n'auraient pas participé à l'organisation de ce braquage. Comme la durée maximale de garde à vue dans ce genre d'affaires est de 96 heures, la jeune fille, son père et le collègue pourrait être remise en liberté cet après-midi.
Arnaud Grange, en direct de Lyon pour RTL.
L'actualité de ce mardi, ce sont les jeunes au garde à vous. Le service national, cher Emmanuel Macron, sera donc universel et obligatoire. Fini la cacophonie gouvernementale. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, s'est montré très clair ce matin sur Paris Première.
Il concernera toute la classe d'âge et il sera obligatoire. Le moment que représentera ce service national universel, c'est un moment de rencontre entre la jeunesse de notre pays et la nation. Et en partie son armée, mais ça peut être aussi un engagement civique. Comment est-ce qu'on donne de son temps utilement ? C'est universel, donc les garçons et les filles, et c'est obligatoire.
Voilà, universel, obligatoire, c'est clair, mais il reste beaucoup d'interrogations autour du projet, difficile à mettre en place et coûteux. Alors à quoi pourrait donc ressembler ce fameux service national obligatoire, Marie-Bénédicte Allaire ?
Eh bien, il s'adressera à l'ensemble d'une classe d'âge, filles et garçons, environ 600 000 jeunes, de 16 à 18 ans, parce qu'au-delà, c'est difficile de l'imposer à des majeurs. Et puis, à cet âge-là, ils ne sont pas encore dans la vie active. Quant à la mise en œuvre, le président a chargé un groupe de travail d'identifier les besoins, avec un impératif, les jeunes devront avoir un intérêt à effectuer ce service. Ils n'apprendront sans doute pas le maniement des armes, mais on pourrait par exemple les aider à passer le permis de conduire ou à se former au secourisme. On évoque aussi la possibilité d'un engagement associatif. La durée, eh bien, ce sera autour d'un mois, mais est-ce que tout le monde le fera en même temps pendant un mois d'été ou est-ce que ce sera étalé dans le temps ? Ça, ce n'est pas encore fixé. Quant à l'hébergement, la plupart des anciennes casernes ont été vendues par l'État. En revanche, on pourrait, pourquoi pas, utiliser les campus universitaires vacants pendant les mois d'été. Réponse en tout cas autour du mois d'avril, quand le groupe de travail rendra ses conclusions.
Alors, bien des questions subsistent, on vient de l'entendre, sur la faisabilité de cette promesse de campagne. On a choisi dans RTL Midi d'en parler avec l'ancien général de division de l'armée de terre. Bonjour Vincent Desportes.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Il y a eu pas mal de cacophonie au sein du gouvernement ces derniers jours sur ce sujet-là. Est-ce que l'idée d'un service obligatoire, d'abord vous, vous y êtes favorable ?
Alors écoutez, tout dépend des conditions, mais ça n'a pas de sens. On voit bien que cette affaire-là est mal partie, parce qu'il s'agit d'abord d'un gadget électoral dont la finalité a très mal été précisée. Votre journaliste nous parle de permis, nous parle de secourisme. Bon, on ne voit pas très bien. Quand vous ne définissez pas la finalité, eh bien c'est très compliqué. Ni la finalité, ni les modalités, on vient de le voir, n'ont été arrêtées. Et donc il y a évidemment de très grandes difficultés devant ce projet aujourd'hui.
Mais à quoi devrait-il servir ?
Alors, eh bien, écoutez, c'est sûrement pas à moi de le dire. C'est au président Macron qui a lancé cette idée, qui encore une fois est un gadget électoral, de dire à quoi ça peut servir. Mon avis personnel, c'est que mettre des gens ensemble pendant quelques jours, finalement, l'imposer à une classe d'âge n'apportera pas grand-chose. Et je crois que la bonne solution, ce serait d'en faire, effectivement, comme le disait Mme Parly, un service où on irait, où on n'irait pas, et donc qui intéresserait des gens qui auraient besoin de cette affaire-là pour rebondir dans la vie. Et je crois que plutôt que d'avoir un mois pour 600 000 jeunes dont on ne sait pas ce qu'on en fera, on ne sait pas où on les hébergera, il vaudrait mieux quelque chose de beaucoup plus substantiel, 6 mois, 7 mois, 8 mois, pour ceux qui voudraient, par ce biais-là, réintégrer la société française et trouver effectivement, peut-être, les voies d'un métier.
Et selon vous, qui devrait gérer tout ça ? Est-ce que les armées, par exemple, de notre pays, ont les capacités d'accueil de ces jeunes ? Est-ce qu'elles n'ont pas autre chose à faire ?
Non mais évidemment pas. C'est bien la position de Mme Parly que je pense d'ailleurs, c'est que les armées aujourd'hui ont bien autre chose à faire que ça. Et comme ça n'est pas un projet militaire et que ça ne peut pas l'être, ça n'est pas aux armées de le porter. Alors en termes de budget, il a été dit que les armées n'en pâtiraient pas. Mais il n'y a pas que le budget, parce que si, pour imaginer le nombre de cadres à mettre en place pour encadrer 600 000 jeunes. On considère qu'il faut au moins un cadre pour 4 jeunes. Donc on est de l'ordre de 100 à 150 000. Où va-t-on les trouver ? Et même si on répartit ces gens-là sur toute l'année, c'est un nombre considérable de cadres qu'il faudra retirer aux armées françaises pour faire cela, alors que les armées françaises sont les moins encadrées aujourd'hui d'Europe et les plus engagées sur le territoire.
Et on ne parle même pas de l'hébergement.
On ne parle même pas de l'hébergement.
Parce que faute de caserne, on ne voit pas bien où on va les mettre non plus.
Mais exactement, l'affaire des campus, ça fait un moment qu'on en parle et on sait qu'en fait ça ne marche pas. Le projet est très mal ficelé. La finalité n'est pas claire et quant aux modalités, elles le sont d'autant moins que le projet n'est pas clair. Si c'est un projet éducationnel ou un projet de cohésion sociale, alors les armées n'ont pas à le porter et il ne faut pas en faire cette affaire-là. Le premier point, c'est de savoir exactement ce qu'on veut en faire. Le terme service national universel ne recouvre rien tant qu'on n'a pas dit ce qui se cachait derrière ces trois lettres.
Évidemment, merci de nous avoir accompagnés. On attendra les prochaines semaines pour avoir des précisions sur le contenu. Mais dès maintenant, on va vous écouter au 3210, vos appels. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, ce service obligatoire, même si ça ne durerait qu'un mois pour garçons et filles ? Est-ce que ça peut être utile pour nos jeunes ? Vous avez des souvenirs, évidemment, du service de l'époque, d'avant 97, et ça a été positif pour vous. Votre vécu, vos regards, 3210, vos prises de parole, 3210 et les réseaux sociaux et notamment le compte Twitter RTL Midi.
Dans un instant, Édouard Philippe au chevet de notre système de santé.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Le gouvernement passe au scanner le système de santé. Le temps des rafistolages est révolu, a dit ce matin Édouard Philippe, tout en annonçant le lancement d'une grande réforme. 5 chantiers qui vont de la qualité des soins à leur organisation. Anaïs Bouissou, le Premier ministre, a l'intention de faire changer la vie des patients.
Oui, d'ici 2022, vos ordonnances, vos prescriptions devront être dématérialisées. Fini les bouts de papier qu'on perd dans une poche. Mieux, c'est tout votre dossier médical qui devrait être accessible en ligne. Et vous n'irez plus forcément à chaque fois chez le médecin. Les consultations de télémédecine sont amenées à se développer avec un tarif à définir par les professionnels. Deuxième gros changement pour les patients, les soins d'hôpitaux devront être utiles. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Écoutez le Premier ministre Édouard Philippe.
Pourquoi est-ce qu'on fait 3 à 4 fois plus d'ablations des amygdales en Gironde que dans la Creuse? Il faut évoquer ce sujet de la pertinence des soins.
Pertinence et qualité des soins. La satisfaction des patients sera évaluée dans les hôpitaux partout sur le territoire.
Mais il y a aussi beaucoup d'impatience du côté des professionnels de santé. On l'a vu avec le mouvement Balance ton hosto. Alors que prévoit-il pour le personnel hospitalier?
D'abord, le statut des salariés, leurs salaires seront passés au crible. Ensuite, la qualité de vie sera évaluée pour éviter au maximum les burn-out, dépressions, voire suicides dans les hôpitaux. Et enfin, pas de tabou sur les études. Elles seront réformées, quitte, pourquoi pas, à mettre un terme au numerus clausus des médecins. Le Premier ministre dit ne rien s'interdire à ce stade.
Merci Anaïs Bouissou. Vous êtes médecin, infirmière ou simple patient. Dites-nous au 3210 qu'il faudrait changer d'urgence dans notre système de santé. L'épidémie de rougeole qui sévit en Nouvelle-Aquitaine a fait une victime, ce qui est rarissime. Une jeune femme de 32 ans est décédée à Poitiers. Elle n'était pas vaccinée. Elle avait été hospitalisée le 1er février. Ça se confirme, le marché de l'emploi accélère. Plus de 253 000 postes ont été créés dans le privé en 2017, en particulier dans les services et dans l'intérim.
Une question à présent, comment inscrire la Corse dans la Constitution? La ministre Jacqueline Gourault reçoit en ce moment les élus corses, puisque c'est la seule concession que leur a faite Emmanuel Macron la semaine dernière. Mais au même moment, l'un des proches de Jean-Guy Talamoni, Charles Pierry, est en garde à vue à Ghisonaccia. Celui qui est soupçonné d'être l'ancien leader du FLNC est interrogé sur le message injurieux envoyé sur Facebook, Julien Fautra, à l'intention de la veuve du préfet Erignac.
Oui, Charles Pierry est arrivé accompagné de ses deux enfants à la gendarmerie de Ghisonaccia, un village au sud de Bastia, et il a donc été placé en garde à vue. En cause, ce texte sur un compte Facebook visant Dominique Erignac, compte qui, selon toute vraisemblance, devrait appartenir à cet homme sulfureux. Charles Pierry, 67 ans, soupçonné d'avoir été membre du FLNC, surnommé le Vieux, inspire à bien des égards une forme de crainte sur toute l'île. Il a été condamné à 8 ans de prison en 2005, notamment pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Mais surtout un homme qui intrigue encore aujourd'hui. Son influence sur la vie politique corse reste opaque. Le gouvernement, par la voix de la ministre Jacqueline Gourault, a fait part ce matin de son inquiétude après avoir constaté que Charles Pierry gravite autour des élus. L'avocat de Pierry ne répond pas à la question de savoir si son client est bien l'auteur du message sur les réseaux sociaux. Il s'étonne en revanche du traitement réservé à Charles Pierry. La garde à vue est à ses yeux excessive en la matière. L'enquête a été ouverte pour injure par voie de communication. L'association de défense des prisonniers politiques Associus Solidarida a lancé un appel aux militants à venir devant la gendarmerie de Ghisonaccia pour soutenir Charles Pierry lors de son audition. Il n'y était qu'une petite dizaine, mais l'ambiance était très tendue, selon un témoin présent sur place.
Voilà, précision signée pour RTL, Julien Fautra.
C'est un procès emblématique qui s'ouvre tout à l'heure devant le tribunal correctionnel de Pontoise et qui a déjà fait l'objet de nombreux débats. Un homme de 28 ans y est jugé pour avoir eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Il ne comparaît pas pour viol, mais pour atteinte sexuelle, ce que conteste la famille Guillaume Chiez.
Oui, pour le parquet de Pontoise, Sarah, 11 ans, n'a pas été violée. Elle n'a pas crié, ne s'est pas débattue au moment du rapport sexuel avec l'homme de 28 ans. Pas de violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise. Cela veut dire, selon le procureur, que la petite fille était consentante. L'homme est donc renvoyé cet après-midi devant le tribunal correctionnel pour atteinte sexuelle et non viol. Un délit donc et non un crime. Délit passible de 5 ans de prison maximum contre 20 ans en cas de viol. Mais l'avocate de la famille de Sarah compte plaider la requalification des faits. Sa cliente était tétanisée au moment du rapport. C'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas débattue, selon elle. Les experts appellent cela l'effet de sidération. L'avocate entend également revenir sur le débat public qui est né suite à cette affaire. Est-ce qu'un enfant de 11 ans peut librement consentir à une relation sexuelle avec un adulte?
Mais oui, effectivement, c'est la question du consentement sexuel qui est en jeu. Cette affaire a déjà abouti à un projet de loi qui porterait l'âge minimum de ce consentement à 15 ans, alors que pour l'instant, cette notion n'existe pas en droit. Mais le débat fait rage entre députés et sénateurs.
Et justement, un débat que nous alimentons en recevant Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
De nous rejoindre. Vous avez travaillé sur ce sujet à la Commission des lois du Sénat et vos conclusions sont différentes de celles des députés. Vous vous opposez à retenir un âge couperet. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, nous avons seulement suggéré, n'est-ce pas, une de nos propositions, c'est instaurer pour les faits de viol une présomption simple de contrainte, n'est-ce pas, qui serait fondée sur l'incapacité de discernement du mineur ou la différence d'âge entre le mineur et l'auteur. 15 ans, vous savez, si on prend l'article 227-25 du code pénal, le fait par un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans est punie de 5 ans. C'est ce qui est arrivé à la personne qui est poursuivie actuellement, et 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Alors aujourd'hui, la question de l'âge, il faut être très attentif parce que on ne peut pas fixer 15 ans d'emblée et faire des lois sous l'effet, n'est-ce pas, des événements. Parce qu'à ce moment-là, notre millefeuille serait tellement grand qu'on n'arriverait plus à s'en sortir.
On est d'accord qu'il y a une question de maturité qui joue et qui varie d'une personne à l'autre. Mais quand même, Esther Benbassa, vous préconisez une présomption de contraintes. C'est encore beaucoup plus difficile à établir, ça.
Oui, c'est difficile, mais tout est difficile, mais toutefois...
Mais là, tout repose sur le magistrat.
Et pas seulement, parce qu'actuellement, quand on parle de consentement, cette absence de consentement, c'est ce que l'auteur a eu dans sa tête. Il a considéré qu'il n'y a pas eu de consentement. Mais est-ce que la victime, comme vous l'avez déjà décrit, il peut y avoir un effet de sidération, etc. Et la loi ne prend pas en considération ce que la mineure... Et pourquoi la mineure a consenti, oui, et dans quelles conditions, vous voyez. Et peut-être qu'aujourd'hui, d'abord, il faudrait définir ce qu'est le viol et ne pas seulement se limiter à ce que la législation actuelle dit, que voilà, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol, quel que soit l'âge de la victime. Alors là, on est vraiment dans le pur acte physique. Est-ce que le viol, c'est seulement la pénétration? Là, il faut vraiment qu'il y ait une large définition pour qu'on ne tombe pas dans ces confusions. Est-ce qu'il y a eu atteinte sexuelle ou viol?
Voilà, débat de société que vous alimentez encore. Merci à Esther Benbassa, sénatrice donc Europe Écologie Les Verts de Paris. Question du consentement sexuel que vous pouvez aborder avec nous. Bien sûr, on peut en parler et dialoguer. Ça se passe dès maintenant, vos prises de parole. Le standard est ouvert et c'est 3210 sur votre téléphone.
Dans un instant, 80 km/h maximum sur les routes nationales. Et si ça ne faisait pas baisser le nombre d'accidents ?
RTL Midi. Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
80 km/h au lieu de 90 sur les nationales à double sens. La mesure entrera en vigueur au 1er juillet. Mais le fameux rapport fondé sur une expérimentation dans 3 départements n'a pas tout dit. Certes, il révèle que la vitesse moyenne a baissé de 4,7 km/h, mais il ne dit rien sur le nombre d'accidents et de victimes. L'association 40 millions d'automobilistes a donc décidé de mener sa propre enquête et elle affirme, Christophe Bourroux, que le nombre de victimes est reparti à la hausse.
Oui, une mise au point suite aux propos notamment du Premier ministre qui avait déclaré que pendant l'expérimentation, les accidents avaient baissé. Eh bien, malgré l'insistance des élus, aucune trace, aucun bilan officiel. Et face à cette carence, l'association 40 millions d'automobilistes a donc mené l'enquête, comme l'explique son porte-parole Pierre Chasseret.
Un an et demi d'expérimentation compilée pour toutes les données d'accidents qui sont public sur Internet. On a tout compilé, tout pointé sur une carte. C'est un boulot de fourmi, c'est un boulot de titan, mais ça nous a permis de prouver, démontrer qu'il y a eu malheureusement davantage d'accidents sur les routes limitées à 80 que sur les routes limitées à 90, et pire encore, que pendant l'expérimentation à 80 km/h, il y a eu davantage d'accidents que sur ces mêmes routes avant.
Avec chiffres à l'appui sur les conclusions qui vont donc à l'encontre du discours officiel.
On s'aperçoit que les routes limitées à 80 km/h pendant l'expérimentation ont occasionné un accident mortel tous les 28 km. Alors que sur le reste du réseau secondaire, le reste des 380 000 km de route en France limitées à 90, on a un accident mortel tous les 202 km, soit 9 fois plus d'accidents sur ces routes à 80.
Et pour protester, l'association suggère maintenant aux conducteurs de télécharger sur leur site internet une carte d'électeur factice pour l'envoyer symboliquement au président de la République, même si pour beaucoup, baisser la vitesse permettrait d'épargner 400 vies par an.
Et vous pouvez réagir bien sûr si vous le souhaitez au 3210 à cette contre-expertise de 40 millions d'automobilistes.
Et puis nous avons décidé dans RTL Midi de nous intéresser à Facebook qui connaît, figurez-vous, un trou d'air. Les jeunes ne lèvent pas ou plus forcément le pouce pour lui. C'est une érosion lente mais constante. Le réseau social a perdu 2 millions d'inscrits l'an dernier chez les moins de 25 ans qui lui préfèrent un certain Snapchat. Sophie Joussin, c'est devenu ringard ?
Eh bien écoutez, Facebook apparemment c'est plus pour nous, pour les vieux seront plus nombreux sur le réseau social. Et devrait ainsi compenser cette baisse des plus jeunes. La firme de Mark Zuckerberg devrait donc garder un nombre d'abonnés stable cette année. Les moins de 25 ans appellent Facebook d'ailleurs le réseau social des adultes, souvent parce que leurs parents sont dessus, et ils préfèrent nettement l'instantanéité de Snapchat. Le réseau de partage de photos et de vidéos est donc le grand gagnant de cette désaffection de Facebook. Il devrait cette année attirer près de 2 millions de nouveaux utilisateurs de moins de 25 ans aux États-Unis. L'autre réseau concurrent de partage de photos, Instagram, propriété de Facebook, ne devrait être en enregistré, lui, qu'un million et demi. Mais Snapchat restera-t-il le chouchou des jeunes ? Pas sûr. Le réseau social a changé récemment sa plateforme pour attirer un public plus âgé. Et les premiers changements ont déçu qui ? Eh bien, les plus jeunes. Un demi-million d'entre eux ont même signé une pétition pour revenir à l'ancienne version.
Christelle, vous êtes Snapchat, vous ?
Non, mais un peu Instagram quand même.
Ouais, quand même.
Hein il drague les vieux, c'est vrai.
On s'interroge aussi sur les ratés de Facebook et a essuyé pas mal de critiques pour diffusion de fausses informations. Unilever, deuxième plus gros annonceur de pub au monde, menace même de se retirer si Facebook ne fait pas le ménage dans ses contenus. Et ça pourrait changer la donne, figurez-vous. C'est ce qu'explique Jérémy Mani, directeur de Netino, spécialiste des réseaux sociaux.
C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et c'est une première parce que c'est souvent les politiques qui jusqu'à présent brocardaient Facebook, Google ou Snapchat, Twitter sur ce manque présumé d'investissement pour lutter contre ces contenus haineux. Pour l'instant, c'est une annonce et il va falloir vérifier si elle donne lieu à des conséquences réelles et sérieuses derrière. Il faudrait néanmoins que Unilever réussisse à fédérer autour de cette grande entreprise tout un tas d'autres entreprises. On pense à Procter & Gamble qui dépense plus d'argent en publicité dans le monde. Et donc, l'ensemble de ces grandes sociétés-là cumulées, effectivement, commencerait à toucher sensiblement aux résultats financiers. Et on sait que c'est là où le bât blesse. Pour eux. Dès qu'on touche au portefeuille, ça devient plus sensible. On peut supposer qu'effectivement, ce lobbying des grandes marques, s'il était confirmé, infléchirait de façon significative la politique des grands réseaux sociaux par rapport à ce type de contenu haineux.
Voilà pour le constat et les informations. Évidemment, on attend vos réactions et vos témoignages dès maintenant au 3210. Est-ce que vous avez un réseau social privilégié pour communiquer avec vos amis ? Est-ce que vous faites confiance en termes d'informations aussi par exemple à Facebook par rapport aux fameuses fake news. On en parle tous ensemble, 3210, vos appels 3210.
Heureux, tout simplement. Alexis Pinturo savoure sa médaille d'argent du combiné nordique. Victor Muffat-Jandet, médaillé de bronze, avoue avoir vécu une journée de folie. Un beau duo sur le podium, ce qui n'était pas arrivé à des Français dans cette discipline depuis 70 ans. La France compte 5 médailles depuis le début de ces Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang.
Merci à vous tous d'être là. La neige, la carte du ciel dans un instant avec Louis Baudin ce mardi. À tout de suite.
RTL Midi.
La météo, Louis Baudin, un petit peu de neige dans l'ouest cette fois.
Oui, c'est vrai, il neige en Normandie, il neige du côté de Rouen, à Caen, il neige également à Orléans, ça commence dans l'ouest des Yvelines, on a du côté de Poitiers ou encore Limoges, de la neige, ça donne entre 2 et 3 cm. Cette neige va se décaler vers l'est, elle va traverser la région parisienne, alors ça ne tiendra pas forcément, notamment dans le centre de Paris, mais on pourra voir blanchir quelques pelouses, ou en tout cas autour de l'Île-de-France sera possible, même chose en Picardie ou encore dans la région centre, ou même du côté du Massif central, et puis en cours d'après-midi et surtout soirée, tout ça se décalera vers l'est. Alors après le passage de cette perturbation, on retrouvera quelques éclaircies près de l'Atlantique, mais avec encore des averses sous forme de pluie cette fois-ci. La Méditerranée sera également concernée par cette dégradation en fin de journée. Tout cela avec des températures qui restent en dessous des moyennes de saison, 2 à 6 degrés en règle générale, jusqu'à 8 en Bretagne et de 9 à 11 degrés dans le sud.
Et demain, le retour de la pluie par l'ouest.
Par l'ouest, ça sera bien de la pluie cette fois-ci, puisque les températures vont remonter sensiblement l'après-midi. Le matin, on aura encore de fortes gelées, mais de la pluie dans toute la moitié ouest, alors que dans l'est, après un ciel nuageux le matin, on aura de nouveau quelques belles éclaircies l'après-midi en attendant la perturbation qui n'arrivera que le surlendemain. Tout cela avec des températures en légère hausse quand même en cours d'après-midi, entre 5 et 10 degrés dans la plupart des régions, un peu plus 10 degrés même dans le sud.
Merci Louis.
Merci de votre fidélité à RTL Midi, il est 13h01.
RTL Midi.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Le tout info des auditeurs, ont la parole avec vous Stéphane.
D'abord la mort dans la Vienne, une personne est décédée de la rougeole à Poitiers, victime de l'épidémie qui sévit en Nouvelle-Aquitaine depuis plus de 3 mois. L'agence régionale de santé a annoncé fin janvier 115 cas ayant entraîné 32 hospitalisations. La victime avait 32 ans, le docteur Daniel Albold de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.
C'est une jeune femme qui a été hospitalisée durant cette vague récente d'épidémie rougeoleuse. Elle n'était pas vaccinée. Les personnes qui contractent la rougeole sont à 98% des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et le foyer Nouvelle-Aquitaine actuel représente 70% de tous les cas français. Tant que la couverture vaccinale n'approche pas les 95% de la population, le virus circule sournoisement un petit peu partout.
En garde à vue depuis hier à Lyon, le convoyeur de fond dont le fourgon a été braqué jeudi soir en Suisse, sa fille et son coéquipier sont également interrogés. La jeune femme avait expliqué la semaine dernière avoir été enlevée par 2 faux plombiers chez elle avant d'être relâchée contre une rançon. Le père ayant accepté de remettre le contenu du fourgon à ses ravisseurs, montant estimé entre 17 et 26 millions d'euros. Une partie du butin d'ailleurs a été localisée sur indication du convoyeur. Le gouvernement au chevet de la santé, le Premier ministre présentait ce matin des remèdes face notamment à des hôpitaux en crise, un plan d'accès aux soins pour tenter de répondre à la colère du personnel des hôpitaux et maisons de retraite. Édouard Philippe annonce des chantiers de réflexion.
Je voudrais que nous conduisions une réflexion sans tabou sur le numerus clausus. Est-ce qu'il faut supprimer purement et simplement le numerus clausus? Est-ce qu'il faut l'augmenter en le conservant? Est-ce qu'il faut le faire varier d'une université à l'autre? Je ne sais pas. La seule certitude que j'ai, c'est que le profil des étudiants en santé mérite d'être diversifié et que leurs études méritent d'être décloisonnées. La mécanique, telle qu'elle fonctionne, ne me semble pas, pour dire les choses de façon la plus neutre possible, optimale.
L'actualité, c'est l'Église qui reconnaît un nouveau miracle survenu à Lourdes, la guérison de sœur Bernadette Moriot, atteinte d'une grave invalidité et avait recouvré en 2008 toutes ses facultés physiques après un pèlerinage dans la ville des Hautes-Pyrénées. Guérison reconnue comme miraculeuse, le 70e miracle survenu à Lourdes, raconté par l'intéressée, donc sœur Bernadette Moriot.
Il était 17h45, j'étais devant le Saint-Sacrement et là, j'ai senti un bien-être. J'ai senti une détente de tout mon corps et une chaleur qui m'a traversée. Et puis là, j'ai une voix qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Dans un acte de foi, j'ai tout enlevé. Et à ma grande surprise, je pouvais bouger et j'avais pas mal. J'ai beaucoup pleuré. On est dépassé par ce qui nous arrive. C'est pas une gloire, je ne suis pas une star, je reste une petite sœur. Je suis chargée de vous le témoigner. Mais je ne suis pas chargée de vous le faire croire.
2 médailles ce matin aux JO d'hiver en Corée du Sud pour l'équipe de France. Dans l'épreuve du combiné en ski alpin, l'argent pour Alexis Peintureau. Derrière l'Autrichien Hirscher, Peintureau, le skieur de Courchevel, la station savoyarde où le papa du champion analyse.
C'est avant tout une satisfaction, mais également une petite déception, puisqu'il était quand même un des favoris. Bon, il est sur le podium, il assume son rôle. Malheureusement, il tombe encore sur un très grand Hirscher avec lequel tout le monde se bat en fait en permanence et pour l'instant celui qui en sort toujours vainqueur c'est Hirscher. Il va falloir que ça cesse. Je lui ai mis juste un petit message. J'ai mis Edune, sous-entendu qu'il en faut d'autres. Avec bravo poulet, bise.
Le bravo poulet de Claude Pinturo au micro RTL de Serge Payot, le bronze autour du cou de Victor Muffat-Jandet, le skieur de Val d'Isère. Les combinards apportent les 4e et 5e médailles au clan français. Et je vous le rappelle, sur ce combiné, l'or revient à l'Autrichien Marcel Hirscher.
L'histoire du mardi, un jour sur la terre avec vous Olivier Bois, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à Nantes avec un escroc, un faux mécanicien plutôt gonflé quand même.
Oui, gonflé et misogyne en plus pour une arnaque à l'automobile avec uniquement des femmes victimes. C'est l'une d'entre elles d'ailleurs qui a donné l'alerte dimanche soir. Elle se retrouve sur le parking de la gare de Nantes avec soudainement un pneu inexplicablement dégonflé. Pas de chance, heureusement dans son malheur, un gentil monsieur se présente, il passait par là. Tiens, ça tombe bien.
Serviable.
Il est mécanicien. Et devinez quoi, il lui propose gentiment évidemment de réparer son pneu contre la modique somme de 100 euros. Sa victime lui donne l'argent mais elle le trouve quand même un peu étrange, un peu louche. Et quelques minutes plus tard, elle se rend compte que son rançonneur non seulement reste sur le parking mais en plus tente exactement le même stratagème avec une autre femme. Vous l'aurez compris évidemment, notre mécanicien crapuleux dégonflait lui-même les pneus de ses victimes. Il aura besoin de tout son souffle de faux gentleman arnaqueur en novembre prochain. Il sera jugé pour escroquerie. À ce stade, il a reconnu lui-même avoir fait comme ça une dizaine d'autres victimes.
Un jour sur la terre, à réécouter sur RTL.fr. Merci Olivier.
Vous écoutez RTL.